chanter le cantique 68.
68.
Jésus de ton amour, viens remplir notre âme et fais la nuit des jours brûler de ta flamme.
Thank you. Lisons ensemble Lévitique 3. Lévitique 3. Et si son offrande est un sacrifice de prospérité, si c'est du gros bétail, qu'elle présente soit mâle, soit femelle, elle le présentera sans défaut devant l'Éternel. Elle posera sa main sur la tête de son offrande et elle l'égorgera à l'entrée de la tente d'assignation. Et les fils d'Aaron, les sacrificateurs, feront aspersion du sang sur l'autel tout autour. Et elle présentera du sacrifice de prospérité, un sacrifice fait par feu à l'Éternel. La graisse qui couvre l'intérieur et toute la graisse qui est sur l'intérieur et les deux rognons et la graisse qui est dessus, qui est sur les reins et le réseau qui est sur le foie qu'on ôtera jusque sur les rognons. Et les fils d'Aaron feront fumer cela sur l'autel, sur l'holocauste qui est sur le bois, qui est sur le feu. C'est un sacrifice par feu, une odeur agréable à l'Éternel. Et si son offrande pour le sacrifice de prospérité à l'Éternel est de menu bétail, mâle ou femelle, il le présentera sans défaut. Si c'est un agneau qu'il présente pour son offrande, il le présentera devant l'Éternel. Elle posera sa main sur la tête de son offrande et elle l'égorgera devant la tente d'assignation. Et les fils d'Aaron feront aspersion du sang sur l'autel tout autour. Elle présentera du sacrifice de prospérité, un sacrifice fait par feu à l'Éternel, sa graisse, la queue qu'on ôtera entière jusque contre l'échine, et la graisse qui couvre l'intérieur, et toute la graisse qui est sur l'intérieur, et les deux rognons, et la graisse qui est dessus, qui est sur les reins, et le réseau qui est sur le foie, qu'on ôtera jusque sur les rognons. Et le sacrificateur fera fumer cela sur l'autel. C'est un pain de sacrifice par feu à l'Éternel. Et si son offrande est une chèvre, elle la présentera devant l'Éternel. Elle posera sa main sur sa tête. Elle l'égorgera devant la tente d'assignation. Et les fils d'Aaron feront aspersion du sang sur l'autel tout autour. Elle en présentera son offrande, un sacrifice par feu à l'Éternel. La graisse qui couvre l'intérieur et toute la graisse qui est sur l'intérieur et les deux rognons et la graisse qui est dessus, qui est sur les reins et le réseau qui est sur le foie qu'on ôtera jusque sur les rognons. Et le sacrificateur les fera fumer sur l'autel. C'est un pain de sacrifice par feu, en odeur agréable. Toute graisse appartient à l'Éternel. C'est un statut perpétuel en vos générations dans toutes vos habitations. Vous ne mangerez aucune graisse ni aucun sang. Jusque-là, la parole de Dieu au début. Nous avons lu un passage dans ce livre de Lévitique. Quel est le sujet de ce livre? Ce livre commence par un « et ça montre qu'il faut savoir au moins un peu de l'histoire qui était avant. Normalement, personne commencera un livre par un « et », mais Dieu le fait dans sa Bible. Certainement, au début, les premiers mots ne sont pas un « et » au commencement. Mais Exode, Lévitique, Nombre, Josué, Juge, Samuel, tous ils commencent avec un « et » qui nous montre qu'il y a une continuation des histoires que Dieu a décrites avant. Dans l'Exode, Dieu nous montre un peuple racheté, un peuple pour lequel il fallait payer un prix, qui était la Pâque, la mort d'une autre personne. Pour eux, c'était un animal, certainement, mais la signification, comme Paul le dit dans 1 Corinthiens 5, verset 7, notre Pâque était sacrifiée, notre Pâque Christ était sacrifié. Ça veut dire la Pâque est clairement un symbole, un type de notre Seigneur. Le Seigneur a dû mourir à notre place. Je crois qu'il n'y a même pas un autre signe, un autre symbole plus approprié à ce que le Seigneur doit être pour l'homme. Soit la Pâque a dû mourir, soit le premier-né des Égyptiens ou des Israélites. Comme aujourd'hui, il est la question, est-ce que Christ était mort pour moi? Sinon, s'il n'accepte pas Jésus comme mon sauveur, c'est à moi de mourir éternellement. Ça veut dire, une personne doit mourir, soit quelqu'un qui est devenu mon sauveur, que j'accepte comme sauveur parce que je confesse mes péchés à lui, et l'accepte comme mon sauveur. Le signe, comme les Israélites ont mis le sang sur les portes, les murailles ou quoi, ou c'est moi qui est sous le jugement de Dieu. C'est notre choix. C'est à nous de choisir, de faire cette décision. Mais pour le peuple d'Israël, la Pâque était sacrifiée. Ça veut dire, nous avons un peuple racheté, pour lequel il y avait une rédemption. Après, Dieu a donné la loi. Ça montre pour nous la parole de Dieu. Ça veut dire, Dieu donne à son peuple racheté sa parole pour la nourriture. Troisièmement, Dieu montre qu'il a voulu habiter au milieu de son peuple. C'est par cette tente d'assignation et sa gloire au milieu de cette tente d'assignation. Dieu ne peut pas habiter dans un peuple qui n'est pas racheté, pour lequel il n'y a pas, on n'a pas payé un prix. Mais pour le peuple qui est racheté, il est le centre, il est celui qui habite au milieu d'eux. C'est Exode. Pourquoi Lévitique? Parce que Dieu n'est pas content d'habiter au milieu de son peuple. Il veut quelque chose de plus. Il veut avoir communion. Et c'est le sujet de Lévitique. La communion que Dieu a avec son peuple et notre sacrifice de prospérité montre que par cette communion avec Dieu, nous pouvons avoir même communion les uns avec les autres dans ce peuple de Dieu aussi. Dieu commence, chapitre 1 à 7, avec les sacrifices pour nous montrer qu'il est le sujet de sa communion. C'est Christ et son œuvre. Ça veut dire le centre de la communion que Dieu veut avoir avec son peuple, avec les croyants, c'est Christ et son œuvre. Et il faut se poser la question, est-ce que c'est juste vrai de la doctrine? Est-ce que ça va être vrai dans l'éternité? Parce que sans doute, le Seigneur et son œuvre sera le sujet de notre communion avec Dieu. Ou est-ce que c'est déjà vrai aujourd'hui? Quel est le contenu de ma communion avec Dieu? Sans aucun doute, on peut parler avec Dieu sur chaque sujet de la vie. Je peux parler avec Dieu sur ma santé, sans doute, faisons-le. On peut parler sur les soucis de la vie. On peut parler avec lui sur le travail, sur les vacances, sur toutes sortes. Mais est-ce que le centre de son intérêt, la personne de notre Seigneur et son œuvre, est-ce que c'est vraiment le centre de notre communion avec lui? On peut le voir. Comment est-ce que j'ai pratiquement communion avec Dieu? par écouter et pas parler avec lui. Ce sont nos prières. Quel est le sujet de mes prières? Comme j'ai dit, on peut prier sur chaque chose qui est difficile dans ma vie, qui a une certaine priorité peut-être dans ma vie. Mais est-ce que nous parlons aussi sur la personne de notre Seigneur, sur son œuvre avec Dieu? Ou est-ce que c'est un sujet un peu à côté? Est-ce que notre communion sur la personne et l'œuvre de Christ se limite à ce culte de dimanche matin? Certainement, dans ces 60 minutes ou quoi, on parle sur, avec appréciation, avec adoration, sur la personne de notre Seigneur. Mais est-ce que Dieu veut que ça se limite à cette réunion de dimanche? Dans nos réunions de prière collectives. Parce que les offrandes ici, les sacrifices, sont premièrement une question d'un privilège, d'une responsabilité collective. Parce qu'on a amené ces sacrifices à l'autel qui était au milieu du peuple. On l'a amené à cette tente d'assignation. Ça parle de notre collectivité, pour ainsi dire. Alors, dans nos réunions de prière, est-ce que le Seigneur joue un rôle ou pas? Par exemple, que nous prions, comme l'apôtre Paul l'a fait, Éphésiens 1, Éphésiens 3, que notre connaissance, notre appréciation, la profondeur de notre appréciation de sa personne, de ses gloires, de son œuvre, soit davantage plus et plus. Est-ce que c'est un sujet ou est-ce que nous prions que pour les malades, etc.? On peut prier aussi pour l'œuvre, certainement, de Christ sur la terre, mais est-ce que la personne est aussi le centre de nos prières? Qu'est-ce qu'il y a avec nous? La communion avec Dieu, comme Jean, premier épître de Jean, chapitre 1, nous montre, est continuée, pour ainsi dire, par la communion fraternelle parmi les croyants. Quel est le centre de notre communion, les uns avec les autres, comme nous visitons, comme nous sommes ensemble? Quel est le sujet? Encore une fois, on peut parler sur tout thème, sur tout sujet, mais est-ce que Christ et son œuvre fait partie de notre communion fraternelle? Ici, Dieu nous montre dans ces 7 chapitres qui parlent sur les sacrifices que c'est pour lui la chose la plus haute. Et ça peut nous encourager, j'espère, et exhorter aussi de l'apprendre et de le pratiquer. Je ne peux pas continuer sur tous ces sujets de Lévitique, juste 2-3 points encore. Chapitre 8 et 9, c'est le dévouement des sacrificateurs, nous montre avec qui Dieu a communion. On peut dire avec le peuple, mais non. Dieu nous montre avec les sacrificateurs. 1 Pierre 2 nous montre que chaque croyant est un sacrificateur. Est-ce que c'est la même chose, sacrificateur et peuple? Mais non. Doctrinalement, positionnellement, c'est la même chose, c'est vrai. Mais l'Ancien Testament nous ne montre pas normalement la position d'un croyant, d'un chrétien. Mais l'Ancien Testament nous montre comment, pas après pas, nous comprenons quelque chose de cette position et comment nous pratiquons ce que Dieu nous a donné dans sa grâce comme position. Et ça montre que dans l'Ancien Testament, les sacrificateurs étaient juste une famille. Qu'est-ce que ça veut dire, sacrificateur? Ça veut dire quelqu'un qui s'occupe des sacrifices de la personne de Christ, de son œuvre. Celui qui fait fumer ses sacrifices sur l'autel. Quelqu'un, le grand sacrificateur, mais aussi les sacrificateurs, qui prient pour le peuple de Dieu. Quelqu'un qui représente par sa vie pratique le peuple de Dieu devant Dieu. Quelqu'un, c'est Lévitique 10 en fait, qui enseigne le peuple de Dieu. C'est clair que pour nous, c'est un travail, un service pour les frères, mais même dans des conversations, dans des maisons, avec des enfants par exemple, il y a aussi les sœurs qui ont une responsabilité, au moins d'expliquer les vérités de la parole à leurs enfants. Les sacrificateurs veulent parler de ces choses pour nous célestes, de ces choses de Christ. Est-ce que nous sommes pratiquement des sacrificateurs? Est-ce que nous sommes ceux qui viennent aussi pour les réunions collectives, le culte par exemple, pour apporter quelque chose, pour louer Dieu, le Père, pour louer le Seigneur? Ou est-ce que nous sommes là sans être activement là, avec notre cœur, avec nos consciences, et pour nos frères, avec aussi des expressions de cette adoration? Un sacrificateur s'exprime. On a pu voir les sacrificateurs à cette époque-là, certainement aussi par leurs vêtements, mais aussi par leur activité. Est-ce qu'on peut voir dans ma vie cette activité de sacrificateur, de prier pour le peuple à Dieu? Pas seulement pour moi, pour le peuple de Dieu. De faire quelque chose avec les sacrifices et de parler sur cette gloire du Seigneur et de son œuvre. Chapitre 10 à 15 nous montre qu'il y a des obstacles pour avoir communion avec Dieu. Il y a plusieurs cas, plusieurs symboles du péché, chapitre 10 à 15. Il est très clair qu'avec un péché, pratiquement, on n'est pas capable de pratiquer la communion avec Dieu. Il faut avant confesser ce péché. Et je parle des croyants, certainement. Mais s'il y a un péché dans ma vie, comment est-ce que je peux pratiquement avoir communion avec Dieu? C'est impossible, parce que Dieu est saint. Chapitre 16, le jour de propitiation, nous montre le fondement de la communion, etc. Ici, nous avons premièrement les sacrifices. Pourquoi est-ce qu'on peut dire, c'est une question, n'est-ce pas, pourquoi est-ce qu'on peut dire que les sacrifices parlent de Christ et de son œuvre? On a appris cela, mais il est nécessaire de le voir clairement, n'est-ce pas? Éphésiens 5 nous montre que l'apôtre le dit explicitement. Éphésiens 5, verset 2, on le lit peut-être aussi ici de temps en temps pour le culte, où il est dit au milieu, « Christ nous a aimés et s'est livré lui-même pour nous comme offrande et sacrifice à Dieu, en parfum de bonne odeur. » C'est exactement ce que nous trouvons dans Lévitique 1, 2 et 3. En effet, Lévitique 1 à 5 ne parle pas objectivement de l'œuvre de Christ. Ça veut dire, ce n'est pas qu'on regarde vers la personne et l'œuvre de Christ pour le voir. Je vais expliquer plus tard pourquoi je fais cette conclusion. Juste pour montrer le sujet vrai de Lévitique 1 à 5, on peut lire Hébreux 13, où peut-être Paul dit, Hébreux 13, verset 15, « Offrons donc par lui, par Christ, sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit des lèvres qui confessent son nom. » Nous offrons des sacrifices de louange. C'est certainement pas comme dit l'Église catholique que nous faisons un nouvel sacrifice de Christ. Mais ça veut dire que ce que le Seigneur a fait, nous prenons comme sujet de notre adoration, de rendre grâce à Dieu pour ce que le Seigneur a accompli. C'est la raison pour laquelle, c'est déjà une explication, pourquoi c'est Hébreux 13, 15 qui est pour ainsi dire l'explication de Lévitique. C'est la raison pour laquelle on trouve trois et Lévitique 1 avec l'Holocauste comme avec le sacrifice pour la postérité, trois sacrifices différents. Parce que l'œuvre de Christ est toujours parfaite, toujours. Objectivement, on ne peut pas dire cet aspect est plus haut que l'autre. Avec l'Holocauste et aussi avec le sacrifice de prospérité. Mais pour nous, certainement, on espère qu'il y a une croissance dans notre appréciation de l'œuvre de Christ. Et par cela, on peut faire des distinctions. Dernière pensée avant de revenir sur Lévitique. Dans le même épître hébreu, chapitre 10, l'écrivain Paul probablement dit, verset 1, « Car la loi ayant l'ombre des biens à venir, non l'image même des choses. » Ça veut dire, l'Ancien Testament, c'est qu'un l'ombre. Et les sacrifices font partie cette loi. Maintenant, nous avons l'image même, parce que Christ est venu, c'est l'image même. Ou comme Paul le dit dans Colossiens 2, sauf erreur, maintenant nous avons le corps. L'ombre, il y a seulement deux dimensions. Le corps a trois dimensions. Nous avons la vérité. Nous avons la vérité. Pourquoi alors est-ce qu'on s'occupe de l'ombre si la réalité, si l'image même est venue? Une question qu'il faut répondre. Pourquoi est-ce qu'il y a encore une valeur de s'occuper des choses qui sont que l'ombre? Ça veut dire, tu vois le autour, mais tu ne peux pas voir des détails et pas le corps. Trois dimensions. Pourquoi est-ce qu'on s'occupe de cela? Il y a une comparaison que je trouve très utile pour cela. On a comparé cela à quelqu'un qui a voulu monter sur des montagnes. Et avant qu'il le fasse, il s'occupe de son tour. Alors, il prend à la maison une carte géographique de ce lieu où il veut monter sur une montagne. Qu'est-ce qu'il fait? Il regarde, par exemple, la hauteur de cette montagne, il regarde s'il y a des nécessités pour monter, peut-être il faut faire un camp cette montagne. Alors, il peut faire par ce plan quelques préparations. On a comparé ce plan, peut-être aussi un plan panorama des montagnes qui sont là. On a comparé cela à l'Ancien Testament, à l'ombre. Ce n'est pas l'image elle-même. Ce ne sont pas les montagnes vraies sur ce plan, cette carte. C'est juste des choses écrites, pour ainsi dire. Alors, après cette préparation, cet homme ou cette femme va dans cette montagne. Elle va monter sur cette montagne. Et quand elle est tout au haut, elle regarde le panorama. C'est l'image elle-même. C'est le corps. C'est la vérité, pour ainsi dire. On ne peut jamais comparer cette vue avec quelque chose que tu peux voir sur cette carte, ce plan. Mais qu'est-ce que va faire cette personne quand elle est sur cette montagne. Il va prendre cette carte, va regarder, et tout d'un coup, il va voir, il y a encore une montagne à voir que je n'ai pas vue dans le panorama. Mais quand j'ai vu, quand j'ai regardé ce plan, tout d'un coup, je vois qu'il y a encore quelque chose que je n'ai pas vu directement. Cette montagne était là, certainement. Mais il n'a pas vu cette montagne, parce que c'était si magnifique qu'il n'a pas eu des yeux pour toutes les montagnes. Peut-être il a pensé que deux montagnes étaient à côté, et sur le plan, il voit qu'il y a un kilomètre en distance entre les deux. Il n'était pas capable de le voir dans l'image elle-même, mais avec le plan. Et je crois que c'est exactement ce que nous trouvons dans la Bible, n'est-ce pas? Quelquefois, on lit dans le Nouveau Testament, on est vraiment étonné sur des choses que Dieu nous montre dans, avec Christ, avec son œuvre. Et quand on regarde dans l'Ancien Testament, tout d'un coup, on voit qu'il y a encore d'autres choses. Et après, dans le Nouveau Testament, on voit certainement, c'est inclus aussi dans le Nouveau Testament, mais j'en ai pas encore vu cette chose. Mais par un détail, par exemple, des sacrifices, tout d'un coup, je vois qu'il y a encore quelque chose de plus que je n'ai pas encore vu avant. Mais ce n'est pas la seule direction. Comment est-ce qu'un ombre se construit? Par la lumière. Et pour nous, de comprendre l'ombre de l'Ancien Testament, c'est seulement possible parce que nous avons la lumière du Nouveau Testament, la lumière de Christ. Si on lit l'Ancien Testament sans le Nouveau Testament, ce ne sont que des histoires. Mais avec la lumière du Nouveau Testament, on voit qu'il y a Christ dans l'Ancien Testament, qu'il y a des prophéties extraordinaires sur la gloire de Christ, son œuvre, etc. Qu'il y a des types de notre position ou de notre pratique pour pratiquer la position. Alors, par le Nouveau Testament, on peut comprendre l'Ancien Testament. Par l'Ancien Testament, on voit des détails dans le Nouveau Testament qu'on n'a pas vu avant. Ça veut dire que nous avons besoin vraiment les deux pour apprécier ce que Dieu nous a donné. Dans les sacrifices, on a trois sacrifices qui étaient donnés librement. Il y a deux sacrifices après, chapitres 4 et 5, qui étaient obligatoires. Si on a péché, il était obligatoire, il était une obligation d'apporter un sacrifice pour le péché. Mais Dieu a cherché dans le cœur de son peuple de le donner quelque chose. Et c'est exactement ce que Dieu cherche aussi. Il a ce désir, Jean 4, d'avoir des adorateurs. Jean 4 nous dit, le Seigneur nous dit en fait, Jean 4, verset 23, au milieu, « Car aussi le Père cherche de tels qu'il adore. » C'est un désir, c'est une recherche de Dieu dans ton cœur, dans mon cœur. Et la question est, est-ce que je réponds à ce désir de notre Dieu et Père? Si nous répondons à ce désir, le Seigneur ajoute dans le verset 24, « Dieu est l'Esprit et il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. » Ça veut dire, si je veux répondre à ce désir de Dieu, je ne peux pas l'adorer, adorer Dieu dans la façon que je pense. Mais Dieu est un esprit, et c'est la raison pour laquelle il faut l'adorer en esprit et en vérité. En esprit veut dire que je ne peux plus aujourd'hui venir avec, disons, par exemple, un agneau, quoi. Mais c'est en esprit, c'est spirituel. L'adoration aujourd'hui, c'est spirituel. Et en vérité, en accord avec la doctrine du Nouveau Testament. Et en l'Ancien Testament, Dieu a demandé, est-ce qu'il y a quelqu'un qui apporte quelque chose? Et s'il y avait quelqu'un qui a voulu répondre à ce désir, il a dû le faire d'après le plan que Dieu a donné. C'est comme pour nous. Quelquefois, on se pose la question, quel sacrifice est le sacrifice, pour ainsi dire, le plus élevé? Dieu commence par l'Holocauste. On peut dire que c'est le plus élevé, parce que l'Holocauste nous montre le Seigneur sur la croix se donnant que pour Dieu, pour son Père. Mais est-ce qu'il peut exister quelque chose de plus haut pour nous que ce que nous avons lu dans le verset 11? Ce sacrifice pour postérité, c'est un pain de sacrifice par feu à l'Éternel. Ça veut dire que c'est un sacrifice où Dieu mange, pour ainsi dire, quelque chose, et nous aussi. Ça veut dire qu'on est assis à la même table, Dieu et nous. Avoir communion avec Dieu veut dire qu'on est assis autour de la même table. C'est vraiment quelque chose qui doit remplir nos cœurs de l'adoration et de remercier Dieu pour ce privilège d'être avec lui dans cette communion. Maintenant, j'ai dit, le sacrifice de prospérité veut dire communion. Vous avez lu avec moi, il est très remarquable que dans chapitre 3, Dieu ne parle pas du tout de la communion. Il parle seulement que ce sacrifice était fait pour Dieu. La communion vient seulement dans les lois de ces sacrifices, ça veut dire dans le chapitre 7. Dans le chapitre 7, nous lisons, par exemple, dans le verset 19. Quant à la chair, quiconque est, à la fin du verset 19. Quant à la chair, quiconque est pur mangera la chair. L'âme qui, ayant sur soi son impureté, mangera de la chair du sacrifice de prospérité qui appartient à l'Éternel, cette âme-là sera retranchée de ses peuples. Après, dans le verset 34, car j'ai pris des fils d'Israël la poitrine tournoyée et l'épaule élevée de leur sacrifice de prospérité, et je les ai donnés à Aaron, le sacrificateur, et à ses fils, par statut perpétuel de la part des fils d'Israël. Ça veut dire, dans ces lois qui nous montrent, pour ainsi dire, comment nous pouvons apporter ces sacrifices, Dieu nous montre que ce n'est pas Dieu seul qui a reçu ce sacrifice, mais aussi chacun parmi le peuple qui était pur. Ça veut dire celui qui a donné ce sacrifice, il a pu inviter, c'est dans Deutéronome où on se trouve, on peut inviter chaque Israélite qui était pur pour participer à cela. Et même les sacrificateurs, ils ont reçu une partie spéciale. En effet, d'après ces choses qui étaient données à Dieu, les meilleures. La poitrine tournaillée qui parle du cœur de Christ, de l'amour, et l'épaule élevée qui parle de la force, la puissance de cette œuvre de notre Seigneur. Ça veut dire aussi ici, les sacrificateurs ont reçu une partie très, très élevée. Mais tout le peuple a pu participer. Mais pourquoi est-ce que Dieu parle dans le chapitre 3 que de ces choses qui sont données à Dieu? Parce qu'il faut toujours être conscient que aussi pour la communion, c'est seulement parce que le Seigneur s'est donné à Dieu. Parce que le Seigneur a donné sa vie, a accompli cette œuvre pour Christ. Maintenant, si on regarde un peu sur ces détails, je peux mentionner seulement quelques-uns parce que le sujet est si vaste. La première chose qui est remarquable, verset 1, le sacrifice, premièrement, si son offrande est un sacrifice de prospérité, ça nous montre que aussi la communion dans les réunions commence toujours personnellement. On n'a rien en commun si ce n'est pas moi qui apporte quelque chose. Et toi? Ici, son offrande, si vous comparez chapitre 7, je dis verset 30, ses mains de celui qui apporte ce sacrifice, ses mains apporteront les sacrifices faits par feu à l'Éternel. Ça veut dire l'Israélite a pris par ses mains son offrande, cet animal, pour l'amener vers la tente d'assignation. Ça nous montre pour avoir communion avec Dieu, avec les uns avec les autres, pour avoir cette communion pour le culte. Et ce chapitre 3 nous montre en fait, dans l'Ancien Testament, la signification de table du Seigneur. Il est nécessaire, premièrement, d'apporter quelque chose personnellement. Il faut s'occuper de la personne et de son œuvre à la maison, moi-même. Et seulement ce qui est bon dans mon cœur, que je personnellement apprécie de ces choses, je peux apporter comme quelque chose pour la communion collective. On ne peut pas vivre des appréciations de mon frère et de ma sœur. Chacun doit apporter quelque chose personnellement. Est-ce que nous venons à ces réunions dans ce sens-là préparé? Je ne dis pas du tout que mes occupations pendant la semaine, je viens avec cela et je vais les exprimer. Parce que si chacun le fait, c'est un certain chaos. Non, je dis seulement, sans occupation personnelle à la maison, on ne va pas avoir une communion fraternelle d'après les pensées de Dieu sur la personne et l'œuvre de Christ. Deuxième chose, il est remarquable que ici, le sacrifice était soit mâle, soit femelle. Si vous regardez verset 3 du chapitre 1er, un mâle sans défaut. Ici, mâle, femelle, sans défaut. Sans défaut, c'est toujours avec le Seigneur. Et si on compare avec 1 Pierre 1, verset 19, sauf erreur, sur la personne de notre Seigneur, il est dit sans défaut et sans tâche. Pour lui, les conditions sont encore plus hautes, ou pour ainsi dire, la vérité de lui est plus haute. Parce que lui n'avait pas seulement aucun défaut, mais même pas de tâche. J'en suis presque sûr, si Dieu avait donné cette condition sans défaut, sans tâche pour les animaux, il n'y avait pas des animaux qui ont répondu à ces conditions. Mais sans défaut, on a pu voir sans faire une recherche extrême sur chaque animal. Mais le Seigneur est plus beau, il est plus parfait. Il est absolument, il n'y a rien du tout. Il n'y a pas seulement pas de péché qu'il a commis, qu'il a connu, qui était en lui. Mais même, il n'y avait aucune tâche qu'on a pu montrer dans sa vie, dans ses paroles, dans ses actions, dans son service. Il n'y avait rien du tout. Seulement pour la gloire de Dieu était sa vie et sa mort. Mais pourquoi est-ce que Dieu prend ici pas seulement des mâles, mais aussi des femelles? Quand Dieu a créé la femme, Ève, c'est la première fois qu'il y avait une relation. Et le sacrifice pour la prospérité parle des relations, la relation entre nous et Dieu, notre Père, la relation fraternelle les uns avec les autres. C'est une des raisons pour lesquelles, ici, pour le sacrifice de prospérité, Dieu parle pas seulement des mâles, des animaux mâles, mais aussi femelles. Dans les versets 3 et 4, vous voyez cinq différentes parties qui étaient mises sur l'autel. La graisse, l'intérieur, les rognons, les reins et le foie. Et sans aucun doute, toutes ces cinq parties ont une signification concernant le Seigneur. Je n'ai pas le temps maintenant de parler sur ces choses en détail, juste pour ainsi dire la graisse. Si vous comparez Genèse 4, c'est le sacrifice que Abel a apporté. On trouve dans le verset 4, « Et Abel apporta lui aussi des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. » Même si la loi n'était pas du tout donnée, beaucoup de détails de cette loi étaient déjà compris par les croyants avant. La graisse était la partie spéciale pour Dieu. C'est l'énergie, pas seulement l'énergie, si vous comparez avec Genèse 45, c'est où le Pharaon parle à Joseph concernant sa famille, et il est dit dans le verset 18, « Prenez votre père et vos familles et venez vers moi, et je vous donnerai ce qu'il y a de meilleur au pays d'Égypte, et vous mangerez la graisse du pays. » C'est la meilleure partie. La graisse parle de l'énergie de Christ qui était dans ses souffrances, les souffrances uniques sur la croix. Et toute son énergie était pour Dieu, pour le glorifier. Et ça veut dire la meilleure motivation, la meilleure pensée, ses premières choses étaient toujours pour Dieu son Père. Il était mort aussi pour nous. Mais la première motivation, la première pensée était toujours, même dans des souffrances que le Seigneur a dû endurer pour Dieu. Juste l'intérieur, elle est remarquable parce que les autres organes étaient aussi l'intérieur. Mais l'intérieur est mentionné ici spécialement. Et ça parle des motifs, des pensées de notre Seigneur qui n'étaient pas vues, sur lesquelles il n'a pas parlé, mais qui sont données sur l'autel, sur la croix, pour Dieu son Père. Les sacrifices ici, comme j'ai dit, Hébreux 13, verset 15, parlent de ce que nous pouvons comprendre et apporter comme louange, comme adoration à Dieu, le Père. Comment est-ce que nous pouvons parler de l'intérieur de notre Seigneur? Dieu ne veut pas du tout que nous fassions des spéculations, des imaginations. Mais où trouvons-nous l'intérieur de notre Seigneur dans ses souffrances? Dans les psaumes. Dieu parle de ses motifs, de ses pensées, de ses émotions de notre Seigneur sur la croix, dans les psaumes. Et ce sont eux que nous pouvons comprendre et prendre pour adorer Dieu par le nom de notre Seigneur. Je vous laisse avec les autres détails de ce verset 3 et 4, parce que je veux courtement montrer maintenant que l'offrande, le sacrifice pour de prospérité, a vraiment sa réponse dans le Nouveau Testament avec la table du Seigneur. Dans 1 Corinthiens 10, il est remarquable de voir que l'apôtre Paul prend. Quand il parle de la scène, en fait, mais sous cette perspective de la table du Seigneur, il parle, par exemple, verset 16, « La coupe de bénédiction que nous bénissons n'est-elle pas la communion du sang de Christ ?» La coupe, c'est la coupe sur la table chaque dimanche. Nous buvons de ce coupe matériellement, extérieurement. Et par cet acte extérieur, nous exprimons une communion intérieure. N'est-elle pas la communion du sang du Christ? Ça veut dire cette action extérieure parle ou signifie une communion intérieure. Si nous le savons, si nous l'apprécions ou pas, Dieu le voit comme ça. Quand je bois ou quand je mange de ce pain, c'est extérieurement, c'est rien intérieurement, c'est extérieurement. Mais Dieu voit que intérieurement, j'ai par cela communion avec lui, avec le Seigneur. Et il prend plus tard, je ne peux pas parler sur les détails, dans le verset 18, « Considérez l'Israël selon la chair. Ceux qui mangent les sacrifices n'ont-ils pas communion avec l'autel ?» Il y a une seule sacrifice où l'Israélite a pu manger. C'est le sacrifice de prospérité. Et quand l'Israélite a mangé extérieurement, Dieu dit, l'Israélite avait communion intérieurement. Et ça, c'est une explication pour nous de savoir, si je prends part à la scène, ici ou ailleurs, par cette action extérieure, je parle ou ça montre une communion intérieure. C'est la raison pour laquelle il est si important que la table du Seigneur est sainte, n'est pas impure, parce que cette communion intérieure est aussi liée à ce que la situation, comment la situation est avec cette table du Seigneur. Est-ce que c'est pur? J'ai une communion pure. Est-ce que cette table n'est pas pure? J'ai une communion avec quelque chose qui est impur. C'est pas possible pour un croyant qui veut suivre le Seigneur. Juste quelques pensées. Je finis avec une pensée que je trouve encourageante et en même temps très solennelle. Nous avons vu que Dieu a donné à ces sacrificateurs une partie spéciale. Nous avons lu dans le chapitre 7. Dans le chapitre 10 de Lévitique, Dieu ajoute encore une autre chose. Chapitre 10, verset 14. Le contexte est très solennel parce que c'était le péché de Nadab et Abihu. Et dans le verset 14, Dieu dit « Et vous mangerez la poitrine tournoyée et l'épaule élevée. » C'était la nourriture des sacrificateurs dans un lieu pur. « Toi et tes fils et tes filles avec toi. » Dieu a voulu expressément que ce pain, pour ainsi dire, ces parties qui étaient spécialement pour les sacrificateurs, étaient aussi pour les filles des sacrificateurs. Pas seulement pour les fils qui étaient plus tard les sacrificateurs, mais que c'était pour toute la famille de foi, tout le peuple d'Israël. Et maintenant, dans le chapitre 22, Dieu ajoute encore une autre pensée. Il est dit dans le verset 12, chapitre 22, verset 12, « Et une fille de sacrificateur, si elle est mariée à un étranger, ne mangera mangera pas des offrandes élevées des choses saintes. C'était ces deux parties que Dieu a données au sacrificateur. Si une fille de sacrificateur, si elle est mariée à un étranger, c'est qui un étranger? Premièrement, on pense peut-être c'est quelqu'un des nations. Est-ce que c'est possible? Certainement pas, parce que c'était interdit. Absolument interdit. Ça veut dire un étranger ici dans chapitre 22 parle d'un Israélite qui n'a pas fait partie des Lévites. Et une fille, imaginons la situation, elle était fille d'un sacrificateur et après elle s'est mariée avec un, disons, Rubenite. Elle est venue avec ce Rubenite à cette tente d'assignation et elle a pu dire à son mari, « Tu sais, avant notre mariage, j'ai reçu cette épaule ou même la poitrine, mais maintenant, je ne peux plus manger cela. » parce que je suis marié avec toi. Quelle est la signification spirituelle pour nous? Littéralement, je dis, vous comme jeune, avant votre mariage, vous avez peut-être pris la place comme sacrificateur à la table du Seigneur. C'est votre choix. Comment vous choisissez un mari ou une femme si elle, lui, est aussi connaît et pratique cette sacrificature? Est-ce qu'elle est vraiment dans la pratique d'une sacrificature d'après la parole de Dieu? Il peut être quelqu'un du peuple de Dieu. Le Rubenite était là, c'est là aussi. Mais s'il n'est pas un sacrificateur pratiquement, tu perds. C'est une de ces raisons pour laquelle le mariage a une importance si grande. Deuxième signification, c'est pour chacun de nous. On peut être sacrificateur pratiquant en pratique la sacrificature dans sa vie aujourd'hui. Mais si je m'éloigne de Dieu, si je vais mes propres chemins, je peux perdre cette place. Un croyant ne perd jamais sa foi, sa vie éternelle, mais je peux perdre cette pratique, cette situation d'un sacrificateur devant Dieu. Si je m'éloigne de Dieu et je perds par cela beaucoup des choses célestes, des choses du Seigneur. Je connais cela dans ma famille. Je connais ceux qui étaient en communion avec le Seigneur et aussi en communion à la table du Seigneur et qui se sont éloignés. Et je peux vous dire, on perd la lumière. On perd beaucoup, et par cela aussi l'appréciation de la personne et de l'œuvre de Christ. C'est la raison pour laquelle il faut rester toujours près du Seigneur. Seulement cela va, pour ainsi dire, pratiquement garantir que aussi ces parties que Dieu a voulu donner à ses sacrificateurs restent aussi avec moi, avec toi. Dieu cherche des adorateurs et cherche ceux qui ont communion avec lui sur la personne et l'œuvre de Christ. Est-ce que nous sommes ceux qui répondent à ce désir d'après les paroles, d'après les pensées de Dieu dans sa parole?
59, strophe 1, 4, 5 et 6. Louons d'un même cœur notre Dieu, notre Père. Il prend toujours plaisir au chant des rachetés. Célébrons son amour en travers son âme. à venir.
Et par son grand pouvoir,
la strophe 5. 86, cinquième strophe.
Oh, que mon âme en marchant.